Hey, on a notre entrevue mensuelle de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan. À tous les mois, on a l'occasion de recevoir les gens de la Fondation avec leur invité pour nous parler un petit peu des activités de la Fondation et également de d'autres organismes qu'on fait connaître à travers les ondes.
Parce qu'il y a tellement d'établissements de santé sur la Côte-Nord et de spécialités que là, ce matin, on reçoit deux spécialistes.
Oui, en l'occurrence, Mme Sonia Saint-Louis, qui est avec nous ce matin, qui est directrice générale adjointe pour la direction des programmes de déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et de déficience physique.
Bonjour!
Bon, c'est ça?
C'est pas simple, hein?
Bravo, Stéphane!
T'es soufflé, là!
C'est pas simple pour notre clientèle non plus.
Ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'on aura l'occasion de s'entretenir avec vous dans quelques minutes. Et on a également Madame Élisabeth Lavoie, qui est ergothérapeute, qui est avec nous ce matin. Bon matin.
Oui, bonjour. Bon matin.
Et passer de l'extrême à l'autre, hein, de compliqué à très court.
Oui.
Et également Madame Marie Weber, qui fait partie de, qui est au niveau des communications de la Fondation et des événements pour la Fondation de la santé et des services sociaux Manicouagan.
Oui, bonjour.
Bon matin. On va débuter avec vous, hein, Madame Saint-Louis. On a un titre relativement long.
Oui.
Alors, on voudrait savoir qu'est-ce que c'est exactement.
Qu'est-ce que c'est? En fait, ben c'est ça, je suis directrice adjointe là, pour toute la clientèle. On pourrait dire DITSA, DP pour simplifier la chose, si vous êtes d'accord. En fait, on parle de personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique. Moi, je suis gestionnaire, en fait, dans le réseau de la santé. Hein. La direction des services DITSA-DP, pour simplifier encore la chose, c'est une direction qui est régionale sous le CIS Côte-Nord, hein, le okay. Centre intégré de santé et services sociaux. Et notre direction couvre tout l'ensemble de la Côte-Nord. Donc,
vous avez un grand territoire, quand même.
On a des intervenants à travers toute la région, jusqu'en Basse-Côte-Nord. Fermont, Haute-Côte-Nord, tu sais, je veux dire, on se promène à travers toute la Côte-Nord. Évidemment, nos services sont déployés de façon différente sur la Côte-Nord. On n'a pas tous nos spécialistes dans tous les secteurs, mais on offre les services dans tous okay. les secteurs.
Ouais. OK. Alors, quand on parle de services, là, on a parlé du territoire que vous couvrez, qui est immense. Là, on parle des services, ça s'adresse à qui, les services que vous offrez? Là?
Oui. Bien, quand on parle de DITSA, DP, mm-hmm. on parle de personnes qui vivent avec, bon, on a parlé de déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, mais on a aussi des personnes qui vivent avec des déficiences motrices, des personnes qui vivent avec des déficiences visuelles, déficiences du langage, déficiences auditives. Est-ce que j'en oublie, Elisabeth? Rapidement, je veux pas oublier des choses mm-hmm. ce matin, mais donc, différentes déficiences. Puis, en fait, faut pas penser que parce qu'on a une déficience, on a besoin de services. Il y a des gens qui ont des déficiences, qui vivent avec certaines déficiences, mais qui sont capables de vivre avec sans avoir besoin de services nécessairement. Donc, c'est les situations d'handicap que vivent les personnes selon leur déficience qui fait qu'ils ont besoin de services. Donc, c'est là qu'on rentre en compte.
OK. Ouais.
Mais ces services-là ont dû évoluer au fil oui, du temps aussi, là, depuis quelques années.
Absolument. Pour, quand on parle de la Côte-Nord, vous vous souvenez de la désinstitutionnalisation, hein? Mm-hmm. Si on se rappelle, là, à Baie-Comeau, entre autres, il y avait le pavillon de la Falaise qui hébergeait des personnes qui avaient des déficiences intellectuelles. Et c'était donc une institution. Puis, tranquillement, il y a eu la désinstitutionnalisation qui a amené ces personnes-là à être plus dans des foyers, des maisons plus de type familial, si on veut, là. Donc, il s'est développé des ressources diverses là, à travers la Côte-Nord aussi. Puis, parallèlement, il s'est développé aussi sur la Côte-Nord les services en déficience physique là, dans les années 90. Là. Tout ça, là, la désinstitutionnalisation puis la déficience physique, là, s'est mis en place là, plus dans les années 90. Donc, depuis ce temps-là, ça a extrêmement évolué. Dans le sens où, bon, même depuis, moi, je suis là depuis 2008 comme gestionnaire, et depuis ce temps-là, j'ai vu les services, en fait, une augmentation de la clientèle. Nos services se déploient différemment. On a ajouté beaucoup de ressources diverses aussi, parce que si on regarde, il y a fut un temps, là, quand on était plus dans les institutions, on avait plus des éducateurs, des auxiliaires. C'est ça, c'était des gens qui accompagnaient au quotidien dans un milieu d'hébergement des usagers. Maintenant, on est plus dans des services externes. On offre aussi un volet résidentiel pour les personnes qui nécessitent un hébergement. Mais sinon, on accompagne beaucoup. Les gens restent maintenant à domicile.
C'est ça, on va à domicile. Oui,
au même principe qu'au niveau des personnes âgées, qu'on essaie beaucoup plus de maintenir les gens à domicile en offrant les services. C'est la même chose pour notre clientèle. On va offrir divers services, que ce soit par de l'accompagnement, par de l'adaptation aussi. Des fois, il faut adapter des milieux pour être capable de garder l'autonomie des personnes. Puis on fait aussi de la réadaptation pour améliorer l'autonomie des personnes. Puis, ben voilà, on compense avec certaines...
Ça fait beaucoup d'ajustements parce que tous les gens ont des besoins différents, des demandes différentes. Mm-hmm. Fait qu'il faut être à l'écoute de chacun d'eux. Là, il y en a qui ont besoin beaucoup. Il y en a qui ont besoin très peu. Puis ça peut même évoluer aussi, dépendamment de si la santé, si ça se dégrade ou si ça reste stable. Alors, ça demande vraiment, là, au niveau d'une gymnastique, là, pour toute cette évaluation-là assez particulière,
ben,
vraiment.
C'est sûr. Puis ça demande beaucoup d'expertise. Puis dans notre région... on s'entend qu'on doit être plus généraliste. Hein? Quand on s'en va vers les grands centres, Québec, Montréal, évidemment, ils ont des équipes très, très, très ciblées sur des problématiques très pointues, alors que nous, on doit être un petit peu plus généraliste. Donc, nos gens sont experts dans tout. Donc, ouais. C'est difficile. Ça reste un beau défi pour nos professionnels puis nos intervenants. Hein? Mais je pense qu'Elisabeth va pouvoir vous en parler d'ailleurs.
Oui. Ouais. Mettons que moi, OK, dans mon entourage, j'ai quelqu'un qui a une problématique du genre, je dois faire des démarches, la façon de s'informer, est-ce qu'on passe par vraiment le CIS? Est-ce qu'on a une référence médicale quelconque?
Pas nécessairement besoin de référence médicale. On peut s'adresser au CLSC, demander... Il y a le 811 aussi qui existe là, pour faire les demandes, là, évidemment. Mais quelqu'un peut appeler au CLSC et dire « Moi, j'ai besoin d'aide. Je vis une situation d'handicap et j'ai besoin d'être aidé là-dedans. » Et dans le fond, on travaille en collaboration avec l'ensemble des autres directions du CIS aussi. Là. Okay. Je ne veux pas dire que... on fait ça toute seule et on travaille aussi en collaboration avec nos partenaires externes, là, les milieux communautaires, scolaires, CPE. Donc,
oui, parce qu'eux peuvent être en mesure de signaler si une personne a une difficulté puis elle est trop timide ou elle n'a pas les moyens d'entrer en contact. C'est là que les partenaires entrent en ligne de compte.
Les partenaires peuvent entrer en ligne de compte, mais on doit s'assurer que la personne autorise la démarche pour venir chercher des services et doit être volontaire dans cette démarche-là. Donc, c'est une démarche qui est volontaire. Mais nous, on vise aussi, ils peuvent signaler, mais on peut être collaborant dans le sens de veiller à l'intégration maximale de ces personnes-là dans les milieux scolaires, CPE. Donc, tu sais, quand c'est difficile dans un milieu, ben nous, on va soutenir l'intégration de ces personnes.
Souvent, on voit ça, là, un jeune qui est dans une classe avec une personne accompagnatrice.
Il y a quand même des intervenants qui proviennent du milieu scolaire. Okay. Puis quand ça demande une expertise supplémentaire, c'est là qu'on vient soutenir la démarche là, à ce moment-là. Puis on va s'impliquer dans les plans d'intervention scolaire à ce moment-là.
Avec le phénomène de Mme Saint-Louis, de la population qui vieillit ici sur la Côte-Nord, vous devez faire face aussi à des maladies qui invalident davantage l'être humain. Est-ce que les services ont dû s'adapter à cette nouvelle réalité au fil des ans?
Bien, en fait, la réalité, elle est la même dans le sens que les problématiques se ressemblent, mais augmentent. Okay. Hein? T'sais, par exemple, si on regarde les AVC, bien, c'est sûr que plus on vieillit, plus qu'on risque d'avoir ce type de problématiques-là. Je ne veux pas dire que ça s'adresse juste aux personnes âgées, évidemment, mais c'est sûr que ça augmente les risques. Nécessairement, ça a de l'impact sur la quantité de personnes qui sont référées. On parle de cette situation-là, mais aussi, par exemple, en autisme, on arrive à mieux dépister l'autisme. Il y a beaucoup plus, on est plus équipé pour faire des diagnostics, donc on reçoit... T'sais, auparavant, il y avait des enfants, des personnes qui ont évolué à travers la vie, mais qui ont eu des problématiques, mais qui n'ont jamais été diagnostiquées parce que c'était mal connu. Maintenant, c'est bien connu. Mm-hmm. Donc, on a une augmentation de référence par rapport à l'autisme, mais on n'a pas tout le temps la capacité de gérer tout ce qui rentre comme demande. Mm.